Je vous invite à prendre votre Bible et nous allons lire dans le livre de Ruth. Ruth, c'est un petit livre qui se trouve après Josué et Juges au début de la Bible. Donc Ruth, chapitre 1, et je vais lire à partir du premier verset. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses deux fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Élimélec, sa femme Noémi et ses deux fils Mahlon et Kilion. Il faisait partie des Éphratiens de Bethléem en Juda. Ils parvinrent en Moab dans la campagne et s'y établirent. Élimélec, le mari de Noémi, mourut là, et elle resta seule avec ses deux fils. Ils épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années, puis Mahlon et Kilion moururent à leur tour. Et Noémie resta seule, privée à la fois de ses deux fils et de son mari. Lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Noémie se mit en route avec ses deux belles filles pour rentrer du pays de Moab. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles s'étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Alors Noémie dit à ses deux belles filles, « Allez et rentrez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même, qui vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. » Puis elle les embrassa pour prendre congé. Les deux jeunes femmes pleurèrent à gros sanglots et lui dirent « Non, nous t'accompagnerons dans ta patrie. » Noémie leur répondit « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Je ne peux plus avoir des fils qui pourraient vous épouser. Retournez chez vous, mes filles, allez, je suis trop âgée pour me remarier. Et même si je me disais, j'ai de quoi espérer des enfants, je me donnerai un mari cette nuit même et j'en aurai des fils. Attendriez-vous qu'ils aient grandi et renoncerez-vous pour cela à vous remarier? Bien sûr que non, mes filles. Je suis bien plus affligée que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi. » Alors les deux belles filles se remirent à sangloter. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Noémie lui dit, « Regarde, ta belle-sœur est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle, retourne chez les tiens. » Mais Ruth lui répondit, « N'insiste pas pour que je te quitte et pour que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » Devant une telle résolution à la suivre, Noémie cessa d'insister, et elles s'en allèrent toutes deux ensemble jusqu'à Bethléem. Leur arrivée là-bas mit toute la localité en émoi. « Est-ce bien là Noémie ?» demandèrent les femmes. Elle leur répondit, « Ne m'appelez plus Noémie, l'heureuse, appelez-moi Mara, l'affligée, car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligée. Je suis parti d'ici comblé, et l'Éternel m'y fait revenir les mains vides. Alors pourquoi m'appeler encore Noémie, quand l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a plongé dans l'affliction ?» C'est ainsi que Noémie et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent des plaines de Moab. Lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, c'était le début de la moisson de l'orge. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Merci de garder ce texte ouvert devant vous. Qu'est-ce qu'on fait quand sa vie tourne à la catastrophe? Je pense à toutes ces familles qui font le deuil des êtres chers à cause de la pandémie. Nous sommes habitués à voir les chiffres, mais derrière chaque chiffre, il y a des individus qui font le deuil. Perdre un être cher, c'est déjà une chose terrible. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on croit en un Dieu qui aime et qui est tout puissant? Qu'est-ce qu'on fait quand la vie tourne à la catastrophe? C'est la situation que nous rencontrons au début du livre de Ruth, que nous allons étudier ensemble sur 3 semaines. C'est un livre merveilleux, à petite échelle, qui se focalise sur la vie d'une seule famille et qui montre également comment Dieu est à l'œuvre pour accomplir ses plans pour son peuple. Et donc, que vous soyez déjà croyants ou pas encore, j'espère que nous allons tous apprendre plus sur Dieu et comment il peut œuvrer dans la vie des gens ordinaires comme vous et moi. Plongeons-nous donc dans cette histoire, au premier chapitre, où nous voyons 3 parties. La première partie, une tragédie familiale, dans les versets 1 à 5. Cette histoire a lieu à l'époque des juges. C'est une période particulière dans l'histoire d'Israël, après l'Exode avec Moïse, la traversée du désert, après la conquête du pays promis avec Josué. Les Israélites sont installés en Canaan, mais nous nous situons avant l'époque des rois, avant Saül, David, Salomon et les autres. Et le livre des juges nous raconte ce qui se passe pendant cette période. En gros, il y avait des cycles. Les Israélites étaient infidèles à Dieu. En conséquence, ils étaient soumis au pouvoir de leurs ennemis. Ils criaient vers Dieu. Dieu suscitait un juge, un dirigeant qui les a délivrés de la main de leurs ennemis. Pendant un certain temps, ça marche plutôt bien. Et puis, ça recommence. Ils sont de nouveau infidèles à Dieu. Et le livre des juges se termine par ce refrain. En ces temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il jugeait bon. Et cela résume bien cette période. Les Israélites sont un peu livrés à eux-mêmes. Et ce dont ils ont vraiment besoin, c'est un bon roi, un roi juste, qui conduira le peuple selon Dieu. Revenons à notre histoire. La première chose qui se passe mal, c'est qu'il y a une famine dans le pays. Dieu avait dit que si Israël était fidèle à lui, il allait les bénir, il allait leur donner des récoltes abondantes. Mais s'ils se détournaient de lui, alors il connaîtrait la famine. Donc la famine ici, dans le livre de Ruth, est peut-être un indice de l'état spirituel d'Israël. En tout cas, il y a une famille qui va chercher de la nourriture. Ils vont aller à Moab, donc un des pays voisins, où le peuple adore un autre dieu. Et ce qui était censé être une courte visite se prolonge en un séjour beaucoup plus long. La deuxième chose qui se passe mal, Elimelech, il meurt en laissant Noémie veuve. Mais heureusement, elle a ses 2 fils pour s'occuper d'elle. Mais eux, ils se marient avec des femmes moabites, quelque chose qui était interdit par la loi de Dieu. Dieu avait dit aux Israélites de ne pas se marier avec des étrangers, de peur qu'ils soient amenés à adorer leur Dieu. Une autre tragédie, c'est que ces 2 femmes ne peuvent pas avoir d'enfants. Après 10 ans de mariage, aucune d'elles n'a d'enfant. Et juste au moment où on pensait que ça ne pouvait pas s'empirer, les deux fils, Marlon et Killian, meurent à leur tour. Donc Noémie a tout perdu. Loin de son peuple, elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux fils. Il n'y a plus personne pour s'occuper d'elle. Sa famille a connu une fin brutale. Et c'est là où l'histoire commence. Une femme dont la vie a pris un virage catastrophique. Qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est la deuxième partie de l'histoire que nous pouvons appeler une décision extraordinaire. Une décision extraordinaire. Nous sommes dans les versets 6 à 18. Noémie, elle entend que Dieu est à l'œuvre, qu'il y a maintenant de la nourriture de nouveau en Israël. C'est le moment pour quitter Moab et revenir. Et Noémie, avec Orpa et Ruth, c'est la famille qui reste, donc elles vont ensemble. Mais sur le chemin, Noémie se rend compte que Orpa et Ruth n'ont pas d'avenir avec elle. Donc elle les renvoie vers leur famille avec la bénédiction de Dieu, mais cela ne marche pas. Les deux s'accrochent à elle, elles veulent rester auprès de Noémie. Donc Noémie est obligée de leur expliquer qu'il n'y a vraiment pas d'espoir chez elle. Et pour comprendre ce qu'elle dit ici, il faut savoir qu'à l'époque, si un mari est mort sans laisser d'héritier, sans laisser d'enfant, son frère était obligé de prendre en mariage sa veuve. Là, il n'y a pas de frère, mais Noémie dit que même s'il y avait plusieurs miracles, c'est-à-dire qu'elle trouve un mari, qu'elle tombe enceinte, qu'elle a des garçons, des jumeaux, ça ne va pas marcher, parce que Orpa et Ruth ne pourront pas attendre à ce que ces garçons grandissent pour se marier avec eux. Et finalement, Orpa, elle décide de rentrer chez elle, mais Ruth, elle reste. Et une troisième fois, Noémie tente de la renvoyer, de la persuader. Et la réponse de Ruth est extraordinaire. Nous lisons au verset 16, Ruth lui répondit, « N'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. » Ruth, elle fait un engagement triple envers Noémie. Là où tu iras, j'irai moi aussi. Ton peuple sera mon peuple. Et là où tu mourras, j'y mourrai moi aussi. En fait, c'est Ruth qui se lie à Noémie, même au-delà de sa mort, et elle scelle cette promesse avec un serment solennel. Et en ce faisant, Ruth se sacrifie. Elle sacrifie son avenir pour le bien de sa belle-mère Noémie. Et sa détermination est telle que Noémie cesse d'insister. Mais la décision de Ruth, c'est pas seulement concernant Noémie. Elle s'est engagée également envers le peuple d'Israël et envers leur Dieu. Souvenez-vous que Ruth, elle est Moabite. Et à cette époque-là, les gens ne changeaient pas de nationalité. Ils ne changeaient pas non plus de Dieu. Ce que Ruth a fait était inouï. Elle, une Moabite, elle s'est accrochée au Dieu d'Israël dont elle a entendu parler dans la famille de Noémie. Donc les deux femmes cheminent ensemble, et là nous arrivons à la troisième partie de l'histoire. Une arrivée amère. Une arrivée amère, c'est les versets 19 à 22. Les deux femmes arrivent à Bethléem et toute la ville est en émoi. Les gens ne sont pas sûrs. Est-ce que c'est Noémie? C'est bien elle ou pas? Et là, il y a un jeu de mots. Parce que Noémie veut dire en hébreu l'heureuse, douce, agréable. Et son prénom ne colle pas à sa situation. Et elle dit non, appelez-moi Mara, amère, l'affligée. Et elle plaint ce que Dieu lui a fait. Elle dit, ce n'est pas un accident, c'est Dieu qui est responsable. Dieu avait promis de bénir son peuple. Mais là, elle dit, c'est lui qui a fait venir la tragédie. Elle dit même que l'Éternel s'est prononcé contre moi. Dieu est devenu, selon elle, son ennemi. Il y a un écart entre l'espérance et la réalité. Et peut-être qu'on est un peu gêné par les paroles de Noémie parce que ça semble manquer de respect envers Dieu. Comment peut-elle parler de Dieu ainsi ? Souvent, nous adoptons une attitude stoïque qui suggère que Dieu n'a rien à voir avec nos circonstances. Mais si on fait cela, en fait, on suggère que Dieu ne maîtrise pas tout. Mais ce n'est pas ce que fait Noémie. Elle croit que Dieu maîtrise tout. Et elle ne veut pas lâcher cette tension entre ce que Dieu a promis et la réalité de sa vie. Et pourtant, tout ce qu'elle dit n'est pas vrai à 100%. Dans sa tristesse, elle ne voit pas ce que Dieu a commencé à faire déjà. Elle dit, « Je suis partie d'ici comblée, et l'Éternel m'y fait revenir les mains vides. » Et pourtant, à ses côtés, nous voyons Ruth qui vient de se sacrifier, de sacrifier son avenir pour être avec Noémie. Et donc il y a une lueur d'espoir. Dans ces circonstances terribles, Dieu prépare le terrain pour le roi dont Israël a tellement besoin. Et nous ne devons pas oublier qu'à partir de ce moment, toute l'histoire se passe dans une ville qui s'appelle Bethléem. C'est un lieu important dans le plan de Dieu. 1000 ans après Noémie et Ruth, un enfant très spécial naîtrait à Bethléem. Jésus, le fils de Marie. Dieu lui-même fait homme. Le roi dont nous avons tellement besoin. Le roi qui allait sauver son peuple en montrant le même type d'amour sacrificiel que Ruth a manifesté. Le roi qui a donné sa vie pour donner la vie à d'autres. Ce qui se passe dans cette histoire de Noémie et Ruth nous amène finalement à Jésus. Comment cette histoire pourrait-elle nous aider à concevoir nous-mêmes et comment nous pensons à Dieu? J'aimerais vous laisser juste quelques idées. D'abord, c'est l'histoire d'une femme. C'est sa vie que nous lisons ici dans la Bible. Et chacun de nous a une histoire propre, notre histoire. Une histoire qui n'est pas encore achevée. Nous sommes en plein milieu. Alors, votre histoire, elle ressemble à quoi ? Est-ce une histoire heureuse ou une histoire un peu triste ou peut-être un mélange? Comment vous sentez-vous par rapport à votre histoire et là où vous êtes actuellement? Peut-être la question la plus importante qu'on peut se poser, c'est où est Dieu dans mon histoire et qu'est-ce qu'il fait actuellement. Il se peut que vous croyiez en Dieu et vous voyez clairement les moments où Dieu a agi dans votre vie. Ou bien il se peut que vous croyez qu'il est là, mais vous ne voyez pas tant ce qu'il est en train de faire. Et il se peut que, comme Noémie, vous vivez dans cet écart douloureux entre ce que vous avez espéré que Dieu fasse pour vous et la réalité. Est-ce que vous avez déjà dit cela à Dieu? Est-ce que vous avez dit honnêtement à Dieu comment vous vous sentez par rapport à votre vie et ce qu'il est en train de faire? Parce que Dieu veut qu'on soit honnête avec lui. Au lieu de jouer au bon chrétien en faisant semblant. Il se peut que vous ne croyez pas en Dieu, ou pas encore. Mais est-ce que vous pouvez imaginer que Dieu a déjà été à l'œuvre dans votre vie? Peut-être qu'il est à l'œuvre aujourd'hui même, sans que vous vous rendiez compte? Est-ce que vous pensez que c'est par hasard que vous êtes ici, dans le local de l'église ou connecté par Zoom, en train d'écouter ce message? Dieu s'intéresse à votre histoire. Dieu s'intéresse à vous. Et Dieu veut que vous vous rendiez compte que votre histoire s'inscrit dans une histoire beaucoup plus grande. S'inscrit dans une histoire de ce que Dieu fait. Quelque chose de merveilleux. Quelque chose de beaucoup plus grand. Une histoire qui est centrée sur Jésus. Donc, qu'est-ce que ça donnerait pour vous dans la semaine qui vient de guetter l'action de Dieu, ce que Dieu est en train de faire dans les coulisses de votre vie, de votre histoire? Si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite dans l'histoire de Noémie, je vous encourage à lire le chapitre 2 et nous continuerons au chapitre 3 dimanche prochain.